Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, mais...
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est dans le mettre. Là, on peut le mettre.
Mais ça n'est pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend, mais qu'on n'est pas là, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Classe.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution, par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallait le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues paroles, hein ?
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela ?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça ?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de pauvre. C'est tant que je pas toucher. C'est quand même curieux, non? 100 fois, tu dis, jamais je tombé en panne.
Aujourd'hui, mercredi 12 mai 2021, c'est la Sainte Régionale 2021. Sainte Régionale 2021 est la sainte patronne des grandes échéances électorales, ces grands rendez-vous démocratiques qui jalonnent la vie démocratique, des grands pays démocratiques où les citoyens peuvent de façon démocratique choisir leur candidat ou leur liste désignée pour eux de façon démocratique par des médias démocratiques. C'est toujours un moment très attendu que celui de la canonisation de Sainte Régionale 2021. Un scrutin qui intéresse, qui intrigue et qui inquiète également en raison de la situation sanitaire compliquée qui laisse planer le doute sur le retour à la normale. Mais tout de suite, le point sur les valeurs à suivre. Sans surprise et dans le cadre de la transition électoraliste qu'il a toujours prônée, le consortium EELV reprend de la vigueur depuis qu'il a délaissé les éoliennes pour les girouettes et c'est avec optimisme que le marché a accueilli sa dernière annonce. Le Trust Vert acceptera de participer à tous les projets de rapprochement et tous les projets d'accord à venir et d'ouvrir son groupe et son capital à toutes les propositions à la seule condition que le futur acquéreur ne soit pas de gauche. Du côté gauche d'ailleurs, enfin gauche si on peut dire, le groupe PCF, qui voit sa marge brute s'effondrer depuis les trois dernières décennies malgré les nombreuses surallocations et augmentations de capital dont il a bénéficié de la part du fonds d'investissement PS, fonds toxique s'il en est, le groupe PCF a donc nommé à sa tête un jeune et dynamique dirigeant aux méthodes modernes qui devrait amener son groupe à rejoindre une toute nouvelle entité qui, en plus de l'ex-géant ex-communiste, comptera parmi ses actionnaires majoritaires de Bob Rushing, qui diffusion 10 nouveaux noms, l'ex-coco s'appellera désormais PS. Du côté du groupe LREM, le Startup Party est en passe d'atteindre son objectif dès 5 ans, le lancement d'une plateforme d'investissement pour les ultra-riches qui recherchent des produits à un rendement élevé, et il y en a. EDF, GDF, l'énergie, les retraites, les assurances, les mutuelles, l'éducation, la santé. Et pour s'assurer son succès, notez la stratégie de la jeune pousse macroniste qui souhaite désormais acquérir une participation minoritaire, certes, mais une participation dans le capital du Rassemblement National, jugé trop mou. En lui reprenant les titres qui ont affiché les plus fortes hausses ces dernières semaines, insécurité, islamo-gauchisme, immigration, séparatisme, islamisme, terrorisme, dans certains milieux autorisés, on prévoit même une fusion entre les deux maisons mères. Le groupe RN, quant à lui, est sorti rapidement des starting blocks la semaine dernière, ce qui lui a permis de relever ses prévisions. À la bourse d'Hénin-Beaumont, le titre bondit de 8% ce dimanche 8 mai. Comme ses rivaux En Marche et Républicains, ça en fait du monde sur le même segment de marché. Le géant au bras tendu jouit de l'engouement de la bourgeoisie pour les pratiques inspirées du monde d'avant. Améliorer la rentabilité des entreprises en réduisant le coût du travail, c'est-à-dire ton salaire mon pote, mais surtout supprimer définitivement l'héritage communiste qui rogne sans vergogne les profits, à savoir la sécu, le code du travail, ou ce qu'il en reste, les impôts et les syndicats. Non, pas les syndicats. Le syndicat. Tu sais, le seul que les gauchistes de l'extrême droite traitent de collabo. Sans oublier le marché des matières premières.
Islamisme.
Un marché des matières premières âprement disputé.
Mosquée, école coranique, terrorisme, radicalisé.
La taqiya, les frères musulmans, salafisme.
Le salafisme, les frères musulmans, le salafisme, oui, les non, frères non, musulmans, le salafisme, ou les frères musulmans et le salafisme.
Islamiste.
Les musulmans, terrorisme.
L'islamisme et le terrorisme.
Mais c'est le jeu de la démocratie, et oui, de toute façon, c'est ça.
L'islamisme.
L'immigration et le terrorisme.
Ou le fascisme. Aujourd'hui, mercredi 12 mai, le soleil s'est levé, avec sa gueule à faire châtrer tous les mâles. Il nous parle sans rigoler de vieilles vertus desséchées. Il va se coucher dans un stade militairement gardé où on pourra toujours chanter. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, le campusfil.com et le DAB+.
Cocatis, amanit, Sahel, chrysanthème, canine, morsure, varicelle, migale, tarentule, épine, porte-avions, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Fourmilière, aiguille, acide et calice, le chemin des dames, cercueil, cicatrice. Cyclone, ouragan, camisole, typhon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Guillotine, cirrhose, nuit blanche, les bommettes, mirador, stasi, siphon, baïonnette, fleury, mérogis, la rue, l'horiston, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Amidal, pavot, vérole, aspirine, échymose, ortie, sanglot, carabine, carmélite, javel, cobra, charenton, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Camorra, péplum, cyanure, mafioso, Tiananmen, amen, rasoir et ciseaux, hostie, Vatican, Jean-Marie, Mormon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Picador, arène, dollar et cédille, ouragan, menottes, acide, Tchernobyl, atomes et neutrons, neurones et citrons. Et toi ?
C'est quoi ton petit nom ?
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pochiche de Radio Campus, comme tous les mercredis à 7h-ci ou à peu près. Ce soir, on vous emmène à Douvrin, chez PSA. PSA, vous connaissez, c'est cette petite PME qui fait dans l'automobile et qui a réalisé 3,2 milliards d'euros en 2019 de profit net et seulement 2 milliards en 2020. Et bien, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent fermer l'usine de Douvrin. Vous pourrez entendre les prises de parole qu'il y a eu la semaine dernière pendant le rassemblement devant cette usine, du son pris par notre camarade Cédric de l'Union Locale CGT de Tourcoing. Mais juste avant, vous retrouverez une interview de Christelle. Christelle, elle est aide-soignante au CH Dron de Tourcoing et elle est militante CGT. Et c'est l'heure de le mettre.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Nous sommes avec Christelle Caron, qui est aide-soignante et militante CGT à l'hôpital de Tourcoing. Hier, il y avait un grand mouvement de grève, de la réanimation, un peu partout en France. Alors Christelle, bonsoir. D'abord, c'est quoi la réanimation ? Parce que tout le monde ne sait pas. Dieu merci, tout le monde n'y passe pas.
Alors la réanimation, c'est un service où il y a des soins spécifiques et très très lourds en fait. C'est vraiment lorsque un patient est en déficit en fait, souvent ben il arrive en réa et il faut du monde pour pouvoir s'occuper des patients en déficit.
Et donc l'épidémie de Covid, elle, a complètement, je dirais, mis en avant ces services, quoi, puisqu'ils ont été renforcés, oui, à l'hôpital de Tourcoing, par exemple.
Alors, renforcés au niveau du personnel réanimation, on peut pas vraiment dire renforcés, parce que pour être personnel en réanimation, il faut au moins un mois de formation. Mmh. C'est là la grande difficulté de la réanimation, et c'est d'ailleurs les demandes qui ont été faites aussi hier, c'est de pouvoir former du personnel en plus dans les hôpitaux pour pouvoir leur venir en aide en cas d'effectifs réduits, puisque c'est des techniques particulières hein, au niveau de la réanimation. Tout le monde ne peut pas y aller. Par exemple, moi je fais partie du pool. Dans le pool, il y a la réanimation, les urgences, les maladies infectieuses là où je travaille et la diabétologie. Par exemple, moi demain vous me mettez en réanimation, je ne peux pas aller travailler en réanimation, je ne suis pas formée. Par contre, le personnel de réanimation, lui, peut aller dépanner partout dans l'hôpital, puisque lui, il est formé à toutes les techniques.
On comprend bien, mais ce que je comprends à travers ce que tu dis, c'est que alors que l'épidémie date depuis et que les services de réanimation ont été donc saturés depuis plus d'un an maintenant, il n'y a pas eu de personnel formé en plus.
Ah non, pas au niveau du CH Dron, non. Au contraire, quand on fait des demandes de formation, quand il y a le plan de formation tous les ans, il y a énormément de formations refusées, des aides-soignantes qui veulent devenir infirmières à qui c'est refusé, et des infirmières aussi qui souhaitent évoluer et c'est refusé aussi.
À quoi comment on explique ce refus ? C'est des raisons budgétaires encore ?
C'est ça, c'est des raisons budgétaires. À chaque fois, on nous dit qu'il n'y a pas l'argent. Donc, on se demande ce que le gouvernement a tiré de la situation Covid aujourd'hui. Pendant des années, on s'est battu, on se bat encore. Hein, la preuve en est du mouvement d'hier. Ils ont réduit considérablement le nombre de lits dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on vend du rêve à la population en disant qu'ils ont des beaux projets pour les hôpitaux publics, en vendant leurs projets de service hôpital semaine, hôpital jour, pour que la population puisse sortir plus vite, rentrer plus vite chez eux. C'est vrai que bien souvent, un patient, c'est ce qu'il demande. C'est vrai que personne n'aime rester à l'hôpital, sauf que lorsqu'on arrive aux urgences et qu'il y a des heures d'attente, c'est aussi à cause de ça qu'il y a des heures d'attente. Il y a des heures d'attente parce que forcément, quand on ouvre, c'est-à-dire, c'est même pas ouvrir des services hôpital jour, hôpital semaine, c'est transformer des services qui étaient ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en service hôpital jour, hôpital semaine, ce qui veut dire que le week-end, il y a de moins en moins de lits disponibles pour la population. Et ça, malheureusement, la population ne s'en rend peut-être pas compte parce que elle n'est pas sur le terrain, mais nous, soignants, on peut vous dire que vous êtes en danger et qu'il est vraiment temps de venir vous battre avec nous.
Si je comprends bien, par rapport à la réanimation, on a déshabillé Paul pour habiller Pierre, je sais pas, ou Jacques, ou un autre. En fait, on a, c'est bien ça, on réduit la voilure des autres services pour essayer de faire face à l'épidémie, c'est ça?
Alors, pour faire face à l'épidémie, ils ont ouvert des chambres supplémentaires réor, mais pas forcément avec du personnel en plus.
Ah oui.
Ils font tourner le personnel en 12 heures.
Mmh. 12 heures?
12 heures. L'épidémie, alors au niveau de l'épidémie, c'est assez fluctuant. On a des pics, on a des creux, on a de nouveau des pics et des creux, et donc ils sont obligés de faire en fonction des chiffres qu'on annonce un petit peu à la télévision.
Ouais.
Donc du coup, ils baissent. Ben, y a des semaines où ils baissent le nombre de lits réor, et puis ben, peut-être qu'un jour ils vont reprendre. Là, cette semaine, enfin la semaine dernière, ils ont baissé le nombre de lits réor. Pour avoir travaillé ce week-end, je peux vous dire que nous avons des patients instables en maladie infectieuse et il n'y a plus de place actuellement en réanimation.
C'est du court terme total, quoi, en fait. C'est au jour le jour.
C'est au jour le jour, en fait. C'est vraiment, on ne sait jamais ce qui va arriver. Hein. C'est, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas.
Mmh.
Et il faut savoir que la maladie aujourd'hui, le Covid, fait que les patients restent très longtemps en réanimation, mmh. Donc bloque très longtemps les chambres aussi. Donc, et c'est encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est des techniques particulières. Ils ont besoin de beaucoup d'oxygène. Par exemple, moi dans mon service, on reçoit du Covid déjà depuis plus d'un an, mais lorsqu'il faut beaucoup d'oxygène pour le patient, on est obligé de lui trouver une place en réanimation. Donc ça peut être, alors s'il n'y a plus de place sur le CH Drôme Tourcoing, on va essayer de lui trouver une place ailleurs, mais forcément ça réduit les chances de survie des patients à devoir faire des transferts comme ça, éloignés, leur trouver une place, c'est du temps un petit peu perdu.
Je vais poser une question un petit peu gênante, mais enfin je sais pas, gênante pour pas pour toi peut-être, hein, mais pour pour ceux qui nous dirigent. On nous a dit qu'il n'y avait pas de tri. Des malades. Est-ce que dans votre hôpital à Tourcoing, vous êtes. Est-ce que toi, concrètement, tu es au service maladie infectieuse, si j'ai bien compris, donc c'est quand même lié. Est-ce que tu es amené à faire le tri? Est-ce que tu vois des situations qui, humainement, sont pas supportables ou...
Oui, il y a des situations très difficiles depuis la première vague. Lorsqu'on est en pleine vague, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a moins de place en réa, voire plus de place en réa. Et là, oui, effectivement, moi, je peux le dire, il y a des choix qui sont faits.
Et donc, concrètement, tu vois mourir des gens sur place ou...
Ben, il y a souvent des personnes âgées, oui, effectivement, qui font, ben, qu'on voit partir, malheureusement.
Mmh. Est-ce que tu peux nous dire que, parce que hier les personnels de réa étaient en de réanimation hein, étaient en grève est-ce que c'est vraiment une grève parce qu'on sait que forcément c'est pas évident de se mettre enfin c'est pas vraiment de la grève quoi hein, en vérité leur quotidien ce que comment ils vivent les choses parce que j'imagine que bon j'ai vu que la CGT je pense que c'est au niveau national hein évoquait cette grève des services de réanimation j'imagine que ça part de la base ça part de ces salariés dont tu m'as dit que parfois c'était des services de 12 heures etc ces agents hospitaliers qu'est-ce qu'ils vivent concrètement quelles sont leurs revendications aussi.
Alors leur revendication, c'est pouvoir être en personnel nécessaire, puisqu'il y a des décrets hein, qui sont sortis,
mmh.
Et ils veulent que ces décrets déjà soient respectés, c'est-à-dire une infirmière pour deux patients. Alors pour la population, ça peut être « oh, c'est peu une infirmière pour deux patientes », mais pour des patients en état critique, une infirmière pour deux personnes, pour deux patients, c'est déjà
énormément de travail.
Parce que si les deux patients ont une détresse en même temps, on imagine un petit peu ce qui peut se passer, quoi.
Mmh.
Parce que lorsqu'un patient est en détresse, on prend pas que deux minutes pour le tirer de la situation. Ça prend énormément de temps.
Est-ce que les agents hospitaliers sont, je vais poser une question bête, hein, toujours au bout du rouleau? Parce qu'ils sont au bout du rouleau depuis longtemps maintenant. C'est un rouleau qui n'arrête pas de se dérouler.
Alors, il y a différentes situations au niveau du centre hospitalier. Il y a des personnes qui sont au bout du rouleau parce que ben ils ont dû fermer l'activité, certaines activités, pour pouvoir justement. Alors, quand je parle de certaines activités, c'est la chirurgie surtout qui a été impactée, puisque forcément les places réa étaient réservées au Covid. Si il faisait un bloc et que le bloc par exemple était risqué, c'était trop compliqué s'il n'y avait pas de place en réanimation. Ce personnel soignant qui est dans ces services qui ferment sont amenés à aller soit en renfort ou en remplacement dans les secteurs Covid. Donc ce qui veut dire que les services dans lesquels où elles allaient travailler, souvent, ça, elles avaient la réponse la veille. Lors de la première vague, les horaires n'étaient pas vraiment maintenus. Ça a été une de nos revendications. Sur les vagues suivantes, ils ont essayé au maximum de maintenir leurs horaires parce que ben derrière, on a aussi notre vie de famille, on a des enfants. Il faut respecter aussi ça quoi. On peut pas faire garder nos enfants à n'importe quelle heure, surtout qu'on a des heures assez compliquées dans les hôpitaux. Ensuite, il y a les personnes qui travaillent dans le secteur Covid depuis plus d'un an, qui commencent à s'épuiser, à en avoir marre, à entendre parler Covid, manger Covid, se coucher Covid. Déjà, la population, je pense que tout le monde en général, d'être un petit peu cloisonné chez soi, pas pouvoir vivre comme on voudrait vivre. Mm-hmm. Mais lorsqu'on est dedans, sans arrêt, dedans, ça devient épuisant aussi. Et ensuite, il y a la réanimation qui eux, oui, effectivement, sont overbookés depuis un certain temps et qui sont aussi très fatigués.
Comment on arrive à... C'est une question presque personnelle, Christelle Caron. Comment on fait pour à la fois affronter ces vagues dans un contexte de démembrement de l'hôpital public et en même temps militer? Ça veut dire que faire un effort supplémentaire, militer dans une organisation syndicale pour changer les choses. Et on a des bulldozers en face, on imagine que c'est pas évident non plus de mobiliser les personnels alors qu'ils sont déjà overbookés, comme tu le disais, et qu'ils en ont ras la casquette. Comment toi tu fais, comment toi tu vis cette situation en tant que militante cette fois?
Alors, en tant que militante, c'est très très difficile parce que ce n'est pas facile obtenir les choses aujourd'hui. Ben, comme on dit, on n'a pas le tampon. Lorsqu'on voit nos collègues souffrir, parce que lorsqu'on tourne dans les services, on se rend compte que la souffrance est la même partout. C'est le manque d'effectifs, le manque de moyens. C'est surtout ça en avant, hein. C'est parce que souvent on dit ouais, ils se battent pour leur salaire, ils se battent pour ci, ils se battent.
Mais non, je pense que tout le monde a compris là aujourd'hui. Ouais.
Voilà, je pense que c'est plus un manque de moyens et un manque d'effectifs. C'est vrai que en tant que militante, c'est difficile de voir des fois les bras baissent parce que ça fait quand même de nombreuses années qu'on se bat. Il faut savoir que le personnel est assigné, hein, donc forcément on peut pas être dans la rue comme on le souhaiterait. C'est pour ça que la population devrait aussi se sentir concernée et venir nous soutenir parce que forcément, lorsque nous, on fait grève, s'il y a une personne par service qui peut se libérer, c'est bien. Mmh.
Quel est l'hôpital que la CGT souhaite et revendique? Quelles sont les revendications lors de la CGT, en tout cas déjà à l'hôpital Dron de Tourcoing, hein? Sur quoi vous insistez? Enfin, je pense déjà connaître la réponse, mais c'est peut-être bon de le rappeler. Dans quelle société on va vivre demain? Et donc, cette société, quel genre d'hôpital elle va proposer, quoi?
Alors nous, ce qu'on souhaite surtout au niveau du CH Dron, c'est des effectifs pour des meilleurs soins. Nous, on veut, enfin, en tant que soignant aussi, souvent quand on tourne, ce qu'on entend, c'est le maintien de la qualité de soins. C'est ce qu'on veut garder aujourd'hui. On nous en demande de plus en plus, mais c'est surtout des choses à faire à côté. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de temps pour le patient. Mmh. parce que à côté on doit remplir des documents informatiques, on nous demande de plus en plus de paperasse, on nous a supprimé des postes comme les postes d'aide hôtelière à l'époque qui nous aidaient à la distribution des repas, aux commandes, toutes ces choses-là, ça on nous les a retirés, on demande au jour d'aujourd'hui aux aides-soignantes de le faire, on en demande aussi de plus en plus aux infirmières. On a des moyens en fait qui nous manquent. On a du matériel par moment vétuste. On se bagarre pour obtenir ne serait-ce que du mobilier. Ça prend des années pour pouvoir l'obtenir.
Mais on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, Christelle Caron. C'est peut-être ça le problème. Il n'y a peut-être pas d'argent.
Alors il n'y a pas d'argent, mais pas pour tous.
Ah.
Il y a quand même des choses qu'on peut voir dans la société. On se dit bizarrement, là, ils ont su débloquer quand même de l'argent. On se dit, mais d'où vient cet argent? Là, aujourd'hui, on nous fait croire à une belle augmentation pour les soignants avec le Ségur. Donc, on nous a augmenté de 183 euros bruts si vous travaillez à temps plein. Si vous n'êtes pas à temps plein, vous n'avez pas les 183 euros bruts. Si vous avez le malheur de tomber malade, ça sera aussi déduit de votre paye. Alors que pendant 10 ans, on nous a quand même gelé notre indice. Et ça rattrape même pas ce qu'on nous a gelé pendant 10 ans. Au jour d'aujourd'hui, on nous reparle là actuellement. Alors bien sûr, ils vont sortir en octobre. C'est la revalorisation des grilles de salaire, encore une fois. Mais tout le monde ne l'obtiendra pas. Donc ça, c'est une honte, puisque tout le personnel médical et hospitalier, surtout hospitalier, ne l'obtiendra pas. Moi, j'ai mes collègues ASH, j'ai des collègues contractuels, j'ai des collègues du technique, j'ai des personnes qui travaillent en restauration. C'est quand même une chaîne. Ouais. On est tous un maillon indispensable pour pouvoir faire fonctionner les hôpitaux. J'estime que tout le monde a le droit à son augmentation, à sa revalorisation de salaire.
Une dernière question, Christelle Caron. Bon, je sais pas, hein, mais on se connaît pas assez, mais j'imagine que la petite Christelle ou la jeune Christelle, elle envisageait peut-être déjà ce métier. Elle se disait, quand je serai grande, peut-être je vais soigner les gens. C'était peut-être ça, oui.
Alors, c'est pas petite. Malheureusement, j'ai vécu des choses dans ma vie. J'ai une maman qui a été très malade.
Ouais.
Qui s'est retrouvée dans un hôpital et je me souviendrai toujours, enfin j'ai eu beaucoup d'expériences comme ça, où elle est rentrée et on m'a expliqué que on venait de lui apprendre un cancer généralisé et on lui a dit hop madame, vous êtes pas encore sortie, vite faut sortir. Et je m'étais jurée de faire ce métier-là et de ne jamais pouvoir faire ce genre de truc. Malheureusement, aujourd'hui, on m'oblige à faire ce genre de truc. Alors, bien sûr, je dis pas aux patients, hop, il faut sortir.
Mais c'est ça, ouais.
Il faut vite nettoyer la chambre pour faire une entrée derrière.
Merci beaucoup, Christelle Caron, je rappelle. Hein. Donc, on va essayer de suivre un petit peu cette situation. On la suit, de toute façon, depuis longtemps. Merci beaucoup d'être intervenu sur les ondes de Radio Campus. C'est l'heure de le mettre. Je rappelle que tu es aide-soignante et militante CGT à l'hôpital CH Dron de Tourcoing. Merci à toi, bonsoir.
Merci, au revoir.
Chaque soir à 20h, toute la France se met aux fenêtres pour vous applaudir.
Vous remercier.
Et vous soutenir à tous.
Merci.
Merci.
On est là, aux fenêtres et aux balcons, nous on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement, l'union sacrée qu'il nous vend, on n'en veut pas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers, ça ne se passera plus comme ça, car on est là. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les autres. hôpitaux saturés et la santé dégradée. Les moyens pour nous soigner, on les a pas. On est là, on est là. Confinés, révoltés, on n'oublie pas. Les milliards aux entreprises, ça prouve quoi qu'ils en disent, que de l'argent il y en a pour ces gens-là. On est là, on est là. Confinés et révoltés, on n'oublie pas. Tous ceux qui vont au charbon s'entassent dans les wagons et bossent sans protection, on n'oublie pas. On est là, on est là. Confinés, révoltés, on n'oublie pas. Les migrants, les sans-abri, tous les enfants qui s'ennuient, les papis et les mamies, on n'oublie pas. On est là, on est là. Confinés et révoltés, on n'oublie pas. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, tous unis ça changera car on est là.
Radio Campus Lille 106,6, vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
Fabrice l'a dit tout à l'heure en introduction, il n'y a aucune illusion à se faire, il n'y aura aucunement du travail pour tous dans l'usine de batterie ACC. Tout cela, ce n'est qu'un mensonge de plus de la part des dirigeants pour nous faire avaler la fermeture de l'usine des moteurs. Hein. Et le discours du directeur industriel Arnaud Deboeuf, hein, quelques-uns en ont parlé juste avant, vendredi dernier, dans la Voie du Nord, c'est sans équivoque. PSA veut arrêter la production des moteurs thermiques sur leur site de Douvrin dans les mois qui viennent, et cela va s'accélérer. Mais cela n'a rien à voir avec la transition énergétique. C'est surtout la transition du fric que PSA veut faire entrer dans les caisses des actionnaires en fermant une usine le plus rapidement possible, tout en se débarrassant de 1500 travailleurs. Voilà. Et c'est, rappelons-le, l'équivalent de deux usines Bridgestone que Tavares voudrait fermer. Tout en encaissant des centaines de millions d'euros de la part de l'État, des collectivités, l'argent de nos impôts pour l'usine de batterie. Il n'y a aucune raison d'accepter le plan de Tavares de fermeture de l'usine. Nous avons engraissé PSA et ses actionnaires depuis des décennies, en bousillant nos santé, en sacrifiant nos week-ends et nos jours fériés pour produire plus de 50 millions de moteurs. Et vous savez très bien que derrière chaque moteur, il y a eu du profit. Voilà. Il n'est pas question pour nous de nous laisser mettre à la porte comme des vieilles chaussettes. Alors oui, nous devons nous battre tous ensemble car PSA nous a déclaré la guerre. Tous ceux qui sont ici ont raison de se rassembler, de s'unir, car leur seule manière de faire ravaler le plan de fermeture de Tavares, c'est de faire bloc face à ces attaques et d'être de plus en plus nombreux à préparer un véritable plan de défense pour garantir nos emplois et nos salaires. Alors ce rassemblement important aujourd'hui doit être un nouveau tremplin pour convaincre nos camarades de travail dans les semaines qui viennent que c'est tous ensemble, dans une lutte collective, qu'on pourra imposer à PSA de respecter nos contrats de travail et nos salaires. Nous sommes 1500 aujourd'hui à travailler pour PSA. C'est un nombre, c'est une force considérable. Nous pouvons, si nous utilisons cette force collective, obliger Tavares à ravaler son plan et à garantir un emploi et un salaire correct pour tous. Voilà. Alors tous dans la lutte les jours prochains. Et encore merci à tous ceux ici présents qui ont montré leur soutien en faisant le déplacement par solidarité. Voilà.
La parole à Jean-Pierre, qui représente la CGT du groupe PSA.
Bonjour camarades. Le sentiment qui domine aujourd'hui, c'est la colère. La colère contre ce patron qui a gavé, dont les actionnaires se gavent de milliards de dividendes. Les camarades l'ont évoqué juste avant, le 8 mars, les actionnaires de Fiat et les actionnaires de PSA, la famille Peugeot et la famille Agnelli, se sont partagés l'équivalent de 2,8 milliards d'euros pour célébrer le mariage, leur mariage. Il y a à peine une semaine, à l'annonce des excellents résultats du premier trimestre, plus 14% sur le chiffre d'affaires, plus 11% d'augmentation des ventes mondiales, les actionnaires se sont réunis à nouveau pour se voter un dividende exceptionnel de 1 milliard d'euros. 3,8 milliards en quelques semaines, ils se sont mis dans la poche. Avec quels résultats et quelles conséquences? Le projet de la fermeture de l'usine de Douvrin, et les camarades l'ont dit avant, c'est une première usine qui est la première d'une longue liste, sans doute. Parce que l'objectif de Tavares, qui représente les actionnaires, c'est d'augmenter la rentabilité. La raison fondamentale de la fermeture de Douvrin, c'est pas que le moteur, il soit le futur moteur EP, génération 3, il soit fabriqué ailleurs. Ça, c'est le prétexte. Ils veulent fermer cette usine pour augmenter la rentabilité. Aujourd'hui, avec le rachat d'Opel, avec le mariage, avec Fiat Chrysler, la politique de Tavares va être d'accentuer la mise en concurrence des travailleurs les uns contre les autres. Quelques exemples. Récemment, Tavares est allé en visite dans une usine Fiat en Italie. Il a osé affirmer que les travailleurs de Fiat en Italie étaient moins rentables que les travailleurs d'Opel en Espagne et que les travailleurs en France de PSA. Aux travailleurs espagnols, ils leur disent « Vous êtes moins rentables que d'autres travailleurs en Europe de l'Est. » Tavares menace de fermer une usine Opel Vauxhall en Angleterre. Il a pris le prétexte du Brexit qui lui augmente ses coûts de production. Avec le rachat d'Opel, Tavares a joué la concurrence entre l'usine Opel de Vienne en Autriche, qui fabrique les boîtes de vitesse, avec l'usine de Valenciennes, juste à côté. C'est l'usine d'Opel à Vienne qui a fermé. Tavares a dit, vous les Autrichiens, vous me coûtez trop cher par rapport aux Français de Valenciennes. Valenciennes a été surchargée de travail. Les cadences ont explosé. Il n'y a pas eu un seul emploi qui a été créé. Pas un seul. Au contraire, Tavares a continué à supprimer des emplois. À l'usine de Poissy, où je travaille, l'usine de Poissy a pris la future Opel Mokka qui est fabriquée en Espagne. En Espagne, dans cette usine, il y a eu des centaines de suppressions d'emplois. Est-ce que ça a bénéficié à l'usine de Poissy? Que dalle, rien du tout. À l'arrivée de l'usine de l'Opel Mokka, la direction a annoncé aux travailleurs que sous prétexte qu'il y avait un fort pourcentage de pièces communes avec la voiture qu'on faisait déjà, la DS3, et ben il y allait avoir des dizaines d'emplois supprimés. Comme quoi les camarades, réfléchissons, prenez un peu de temps pour réfléchir. Les relocalisations, c'est pas forcément synonyme de maintien d'emplois ou de création d'emplois. Au contraire, ça peut être aussi synonyme de destruction d'emplois. Alors dans cette affaire, face à cette politique de Tavares qui est de diviser pour régner, eh bien nous les militants, les travailleurs, on doit défendre cette idée fondamentale que les travailleurs, par-delà les frontières du groupe Stellantis, PSA, Opel, Fiat, Chrysler, on a des intérêts communs. Qu'on soit en Hongrie, en Pologne, en Espagne, en Italie, en France ou en Angleterre, nous avons le même adversaire, le même ennemi. C'est la famille Peugeot, c'est la famille Agnelli. Ce sont ces actionnaires qui sont en train de se goinfrer de milliards sur notre dos. C'est ça dont il ne faut pas qu'on perde d'idée. Il faudrait qu'on ait conscience réellement de ça. Aujourd'hui, vous savez, ils ferment les usines. pour augmenter la rentabilité. Mais nous, les travailleurs, on a un objectif en tête, un seul. C'est de garder notre emploi, pour garder notre salaire. Parce que sans salaire, on est mort, on crève, on va au chômage. Et derrière le chômage, c'est la misère. Alors on ne peut pas se permettre de perdre son emploi et de perdre son salaire. Ici, entre l'usine de Douvrin, l'usine d'ACC, la fabrication des moteurs ou la fabrication des batteries, il y a de toute façon de quoi maintenir les 1500 emplois. Il faut simplement se répartir le travail entre tous, faire baisser les cadences, faire baisser le temps de travail, pour qu'on soit aussi nombreux à travailler, mais qu'on garde tous notre paye, qu'on garde tous notre boulot. Parce que sans boulot, encore une fois, on n'est plus rien, on est mort. Ça, pour nous, c'est sacré. Alors, pour utiliser une formule qui est devenue célèbre avec le Covid, c'est quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte au patron, nous devons obtenir, imposer le maintien de tous les emplois, que l'on soit CDI, intérimaire, CDD, fournisseur, sous-traitant, peu importe. On doit tous continuer à garder nos emplois et garder notre salaire. Et ça, quoi qu'il en coûte. Camarades, et là je m'adresse particulièrement aux camarades de Douvrin, mais même en fait, je m'adresse à vous tous qui vivez de votre salaire, nous tous qui vivons de notre salaire, pour avoir connu cette expérience douloureuse. J'ai travaillé pendant 18 ans à l'usine de PS en Aulnay. Je connais ce que c'est qu'une fermeture d'usine, la bataille que c'est, la détermination qu'il faut avoir, les nerfs qu'il faut avoir, la conscience de ses intérêts, avoir conscience qu'il faut qu'on s'organise, qu'il faut se rassembler, qu'il faut être unis, solidaires, par-delà les sigles syndicaux. C'est plus un problème de syndicat à ce niveau-là, c'est un problème de travailleurs, qu'on soit de la CGT, de la CFDT, de FO, peu importe. De toute façon, à la fin du compte, ici, le patron il veut fermer. Alors c'est pas un problème de syndicat, c'est un problème de conscience où sont nos intérêts. Et nos intérêts, ça commence d'abord et avant tout par être unis ensemble, par être solidaires. Tous les travailleurs doivent être solidaires. Et ça, ça se construit parce que c'est pas facile, parce qu'il y a des divisions dans les têtes. Le patron, pendant des années, il a cherché à nous diviser au niveau des catégories socio-professionnelles, au niveau de nos contrats de travail. Eh bien, il faut qu'on comble ces fossés de division. Il faut qu'on s'unisse face au patron. Alors, il va falloir beaucoup de détermination. Il va falloir avoir le moral. Et aujourd'hui, cette initiative, eh bien, elle va contribuer, moi j'en suis convaincu, à relancer les discussions à l'intérieur de l'usine, à donner un peu de courage, à donner de la confiance dans la force collective. Les camarades, ils le disaient avant, 1500 travailleurs. 1500 travailleurs, c'est une force considérable quand on y réfléchit. Surtout dans la situation actuelle où ces fermetures d'usines sur plan de licenciement qui s'alignent. Oui, on a des alliés partout, partout dans la région et partout dans le pays. Ça, il ne faut pas le perdre en tête. Alors, il faut réfléchir, il faut s'organiser, il faut se réunir, discuter quelle est la meilleure bagarre à organiser, réfléchir sur ses revendications. Mais avoir un objectif en tête, les copains, pas un seul emploi des 1500 ne doit être supprimé, pas un seul salaire ne doit être supprimé. Alors tous, autant qu'on est, on va militer dans ce sens-là. Et moi j'en suis convaincu, j'ai confiance dans les camarades de Douvrin, dans les travailleurs de Douvrin, mais aussi dans les travailleurs de PSA, dans les travailleurs de Renault, dans les travailleurs du pays, à un moment donné ou à un autre, il va y avoir cette prise de conscience. Il va y avoir cette colère qui va s'exprimer, parce qu'il n'y a que ça qui est salutaire. On ne peut compter que sur nos propres forces. Alors les camarades, je vous souhaite, je nous souhaite du courage, de la détermination, de la mobilisation et de la victoire. Bon courage à tous.
Allô, Henri ? Ici André. Ouais ! J'ai décidé de moderniser la France. Faut que je te voie. Dans 3 jours. D'accord, allez droit. Monsieur André Citroën et a vu Monsieur Ford Henri. C'est le travail à la chaîne qui l'a ramené dans notre chère patrie. La France agricole devient industrielle grâce à des patrons comme lui. Les ouvriers se précipitent pied de javel pour goûter les joies de ce progrès inouï. Plus de 100 à l'heure, des culbuteurs, carburateurs inversés. La monocoque ouvre une époque, Monsieur Citroën a gagné. Voici les tractions avant, et avec leur moteur flottant. Révolution dans la technique aérodynamique. Regarde maman, les beaux cardans homocinétiques. Voici les tractions avant, et au salon c'est l'affolement. Albert Lebrun, plein d'émotion, fait marcher le klaxon. Comme elle est belle, elle a des ailes, c'est la traction universelle. Allô, la tour Eiffel, passez-moi le patron. Allô Gustave, ici André, ouais. J'ai décidé de démocratiser la France. Faut que je te voie. À 3h. D'accord, je monterai chez toi. Monsieur André Citroën illumine la tour Eiffel. C-I-T-R-O-E-N. Tout Paris la nuit on prend plein les prunelles. La publicité c'est le meilleur des hameçons pour pêcher la clientèle. Chouette, y a un nouveau produit de consommation. Tous les Français se précipitent qu'est Javel. Les ouvriers, les PDG, les gangsters comme les flics, tous ont couru poser leur cul dans cette voiture démocratique. Voici les tractions avant et avant qui s'élancent à travers champs. National 7, Monte Carlo, pipi à la Roche-Peau. Malgré les trous et les cailloux, la route est à nous. Voici les tractions avant, et avec leur moteur flottant. Après le trèfle, la Rosalie, la 11, c'est le dernier cri. Comme elle est belle, elle a des ailes, c'est la traction universelle.
Voilà, je vais donner la parole maintenant à un certain nombre de camarades qui se sont déplacés, qui viennent des sites de PSA. Hein, bien sûr, j'en profite pour remercier précisément aussi les camarades qui sont venus nous soutenir de Boserson-Redel, de La Redoute, de Cargill, de Thyssen, de Renault. Et évidemment, dans toutes ces entreprises qui sont plus ou moins touchées par les mêmes choses que nous, c'est-à-dire par la peur et par l'angoisse et par les mesures de licenciement ou de régression sociale, voilà, on peut discuter ensemble, on se comprend. Là, je voudrais passer la parole donc aux camarades de Sochaux, Anthony.
Camarades, notre petite délégation CGT de PSA Sochaux, Stellantis aujourd'hui, vient pour vous apporter son soutien face à la menace que la direction fait peser sur vos emplois en programmant la fermeture de l'usine de Douvrin. Nous vous apportons notre soutien par solidarité, mais pas seulement. Car quand vous êtes attaqués, vous, nous avons conscience d'être attaqués, nous aussi. Et la menace qui pèse sur vos emplois à Douvrin pèse aussi à Sochaux, dans toutes les usines du groupe et par-delà les frontières. À Sochaux, dans quelques mois, les emplois des 800 intérimaires seront menacés parce que la direction arrête la production de la 308 pour produire la nouvelle version A12. À Sochaux, toujours, dans un secteur entier de l'outillage, 67 salariés ont appris il y a un mois qu'il n'y aurait plus de boulot, que le travailleur se ferait ailleurs et qu'il devait chercher autre chose. Dans notre secteur, la direction annonce des sureffectifs alors qu'il manque du monde partout. Aux alentours de l'usine, à Sochaux, les emplois des entreprises sous-traitantes, des fournisseurs, sont eux aussi menacés. Pour ses seuls intérêts, la direction va reprendre certaines activités, certaines productions, faire déplacer des usines d'équipementiers comme Faurecia, entre autres. La direction de Stellantis tend partout le piège de la division entre travailleurs pour pouvoir s'attaquer à ce qui est vital pour nous tous, nos emplois et nos salaires. Nous, les travailleurs, nous avons les mêmes intérêts à défendre, quelle que soit l'usine, le pays ou la couleur de notre bleu de travail. Et c'est en s'y mettant tous ensemble qu'il serait possible de les défendre. PSA Stellantis, aujourd'hui, est un groupe multimilliardaire qui décide d'organiser sa production en n'ayant que faire des conséquences sociales pour nous, les travailleurs. Pourtant, notre travail a créé assez de profits pour maintenir tous les emplois à Douvrin, dans toutes les usines du groupe, des sous-traitants, des fournisseurs et des équipementiers. Pour maintenir tous les emplois et les salaires, il serait possible de répartir le travail entre tous, réduire le temps de travail, baisser les cadences, sans y perdre sur nos salaires, en prenant sur les profits accumulés ces dernières années. Ce doit être notre objectif pour les luttes qui ne manqueront pas de venir. Alors vive la lutte des travailleurs de Douvrin et bon courage à tous les camarades.
Donc il y a le camarade de Mulhouse, Julien. Et ensuite, il y a le camarade de Charleville-Mézières, François.
Oui, bonjour à tous les camarades. À Mulhouse, on est en ce moment avec le lancement d'un nouveau véhicule, la 308. Alors, la direction pourrait nous dire, c'est bien, vous êtes à l'abri, il y a de l'activité, il y a de la production, vous serez tranquille pour quelques temps, mais évidemment non, c'est pas dans son intérêt, c'est pas ses objectifs. La direction, comme ailleurs, eh ben, elle nous fait du chantage, elle nous fait des menaces. Elle est en train de nous expliquer que si on bosse pas assez vite, si on bosse pas assez bien, eh ben, il y aura la version électrique de la 308 qui sera envoyée dans telle usine, et puis la version, une autre version qui sera envoyée dans telle autre usine. En réalité, elle est en train d'appliquer la même politique partout, dans toutes les usines du groupe. Alors, évidemment, avec des différences, hein, je dis pas qu'on est dans la même situation à Mulhouse ou à Douvrin. N'empêche que on a en face de nous le même patron et évidemment il applique la même politique partout. C'est des menaces en permanence, c'est des menaces sur nos emplois, c'est des menaces sur nos salaires et tout ça évidemment, ben, je ne vais pas répéter ce que les camarades ont dit avant moi, mais l'objectif il est partout le même, la politique elle est partout la même, c'est augmenter la rentabilité, c'est comment faire toujours plus de fric avec toujours moins de salariés. À Mulhouse, on est passé sous la barre des 5000. En dessous des 5000 salariés, bon voilà, on était, il y a 20 ans, on était 14 000, aujourd'hui on est moins de 5 000, on a des cadences aujourd'hui qui sont intenables avec quasiment une voiture produite à la minute, et en même temps, ils refusent d'embaucher, évidemment, en même temps, ils refusent ne serait-ce que de reprendre des travailleurs intérimaires, c'est du sous-effectif en permanence, ce sous-effectif, eh ben, il est pareil, il est appliqué dans toutes les usines du groupe. Parce que derrière, il y a la volonté de dégager plus de bénéfices, plus de profits. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans une entreprise qui a réalisé ces 5 dernières années plus de 15 milliards de bénéfices. Dans une période où on nous explique que c'est la crise, dans une période où on nous dit qu'il faut faire des sacrifices, il faut accepter de baisser vos salaires, ou en tout cas de baisser certaines primes, de baisser des majorations. Il faut accepter de travailler des heures sup quasiment gratuitement. Il faut accepter des plans de suppression d'emplois. Ils appellent ça des plans de départ, mais en réalité, c'est des plans de suppression d'emplois parce qu'il n'y a pas d'embauche en face des départs. Et tout ça, donc, dans une période, 15 milliards de bénéfices en 5 ans, plus de 5 milliards reversés rien qu'aux actionnaires. Plus de 5 milliards en 5 ans. Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, hein, c'est 3,8 milliards en l'espace de quelques mois, et sur 5 ans, plus de 5 milliards. Eh bien, cet argent-là, à quoi il doit servir ? Est-ce qu'il doit servir à la famille Peugeot ou à la famille Agnelli pour remplacer leur dernier yacht ou leur dernier jet privé ou pour savoir quel château ils vont acheter ? Ou est-ce qu'il doit servir à la collectivité ? Est-ce qu'il doit servir au maintien des usines, au maintien des emplois, à la répartition du travail ? Eh bien évidemment, la réponse, on la connaît. Mais pour ça, eh ben, c'est un bras de fer qu'il faudra engager avec le patron. Comme je l'ai dit avant, on a le même patron, on a les mêmes intérêts à défendre. Quel que soit le pays où on travaille, quelle que soit la voiture qu'on fabrique, le moteur qu'on fabrique, nos intérêts, c'est d'être des ouvriers. En ce moment, à Mulhouse, ils ont fait venir depuis quelques mois des ouvriers d'Opel de Pologne. Parce que là-bas, il y a du chômage technique, Donc, sur ma ligne, je travaille avec deux ouvriers polonais. Alors, on a du mal à se comprendre. Je parle pas trop allemand, ils parlent pas trop anglais. Mais n'empêche que notre identité, c'est d'être des travailleurs, c'est d'être des ouvriers. On est à la chaîne tous les jours ensemble. On fabrique des profits ensemble. Mais demain, on se battra ensemble pour défendre nos intérêts. Ouais.
Donc les camarades de Charleville.
Merci, bonjour à tous. Alors la vérité, c'est que par rapport à Douvrin, on le sait tous, le fait qu'ils défendent leur emploi, ils défendent les nôtres. Et c'est pour ça qu'on est tous ici. Parce qu'on veut défendre absolument nos emplois et les soutenir. Parce qu'on sait très bien que si cette usine la tient, nous, on pourra tenir beaucoup plus longtemps aussi. Le problème qu'il y a aujourd'hui, on le sait tous, alors on entend parler, on parlait tout à l'heure, entre autres, des productions, des délocalisations, mais il faut tenir compte qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes, je vois à Charleville, ils ont fait venir des personnes qui viennent de Pologne, de Gliwice, et en fait, ce qui se passe, on est à peu près une centaine. Et moi, ce que je constate, dans certaines circonstances, il y a des salariés qui ne comprennent pas, surtout les intérimaires. Ces personnes ne comprennent pas, ils disent, mais moi, mon contrat, il s'arrête là, et qu'est-ce qui se passe? C'est des gens d'ailleurs qui prennent mon boulot. Alors après, il faut faire le tour, expliquer aux gens ce qui se passe. C'est le patron qui fait ça aujourd'hui. On parle de relocaliser les productions, alors qu'en réalité, pour le patron, il n'est même pas difficile de faire venir des gens d'ailleurs. On en est là aujourd'hui. Tout s'est déplacé, malheureusement. Alors, Douvrin, concernant Charleville, c'est un client important parce qu'on fait environ 20% de pièces pour eux. On fait environ sur l'année 2 400 000 culasses. Sur 2 400 000 culasses, on en fait un peu plus de 500 000. 500 000 pour Douvrin. Sachant que il y a Trémery derrière aussi, on sait où va le diesel, etc. Donc on va avoir une baisse, nous ça va aller très vite aussi. Alors, on a intérêt, ce combat-là, qui est à Douvrin, c'est un combat pour tous. Il faut absolument qu'on arrive à faire quelque chose, à maintenir cette usine en place. Donc, si Douvrin a besoin demain qu'on revienne, on reviendra. Parce que c'est la moindre des choses. Je vous remercie à tous.
Merci.
Bonjour à tous. Je vous apporte le soutien, la solidarité des camarades de l'automobile de Lorraine. On est venu en délégation des trois usines. Metz-Borny qui fait des boîtes de vitesse pour PSA. Renault Sauvabre, une filiale de Renault qui fait des utilitaires en Meurthe-et-Moselle. Et l'usine de Trémery où je travaille, qui est l'usine sœur d'ici. On est les jumeaux, les camarades. On est les deux usines de moteurs de PSA. Et quand on parle de solidarité, c'est pas un sentiment abstrait. Parce que pendant qu'ils parlent de fermer votre usine, nous on se tape des heures supplémentaires, des samedis supplémentaires, des dimanches soirs pour l'équipe de nuit, des 50 minutes, avec un effectif qui est réduit, les intérimaires qui ont été foutus à la porte, les cadences qui s'accélèrent, on se tue au boulot et on se prépare à nous tuer au chômage. C'est ça la politique patronale. Donc la solidarité, c'est l'intérêt compris. Collectif et individuel. On est dans le même bateau. Nos patrons veulent nous couler d'une manière ou d'une autre. Le combat qu'on a amené, c'est sauver nos peaux, sauver notre avenir. Avec un boulot, au salaire, on a un avenir. Ils s'apprêtent à nous coller notre avenir. Donc, ce soutien, cette solidarité, il est entier. Mais ça reste à construire. Parce qu'on part de bien bas, il faut bien le dire, les camarades. Ce rassemblement, eh bien, c'est une occasion. Il faut le vivre comme un point de départ. Une prise de conscience que, face à ses patrons, il n'y a que la force qu'on prenne. Il n'y a que le rapport de force qu'on prenne. Alors, mes camarades, bon courage. Et on se reverra dans les futures batailles.
Voilà, il y a quatre interventions à venir encore. Il y a Cédric de Valenciennes. Des boîtes de vitesse de Valenciennes, s'il est là, oui. Ensuite, il y a Stéphane de Paris qui viendra parler. Ensuite, il y a le camarade de Toyota qui est dans l'automobile et le camarade de Renault aussi qui parlera de l'automobile.
Eh bien, malheureusement, encore une fois, nous voilà réunis pour une casse industrielle terrible, mes camarades. À chaque fois, les mêmes schémas, des millions d'euros d'aides publiques distribuées à des entreprises riches à milliards, obèses de fric. Toujours les mêmes miroirs aux alouettes. On vous promet une usine high-tech qui va reprendre tout le monde. ça va être une sacrée grande usine. Hein. Elle va reprendre les 1500 salariés de Douvrin, elle va reprendre les Goodyear, elle va reprendre les Cargill. Toute la région va travailler dans cette usine. Vous l'avez compris, c'est une escroquerie politique qui permet d'éteindre le feu. Ce qui est en train de se passer depuis maintenant plusieurs années dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est une casse industrielle énorme. Des milliers de travailleurs sont en train de perdre leur emploi. Oui, il y a des CDI, mais je pense à tous ces travailleurs précaires, ces intérimaires, ces CDD, qui font des dizaines d'années d'intérim pour vivre, que dis-je, pour survivre, à prendre les postes les plus terribles, les plus insupportables, pour à la fin se retrouver à la NPE. L'usine ici de Douvrin, ce n'est pas qu'une usine pour nous, parmi tant d'autres. À Valenciennes, ce sont les mêmes travailleurs, les mêmes cœurs de métier, les mêmes salaires, les mêmes conditions de travail. Il faut savoir, PSA, c'est des salariés à 35-40 ans qui sont plus capables de porter leurs gosses en rentrant du boulot tellement ils sont abîmés par le travail. Des générations de travailleurs qui ont laissé leur santé, parfois la vie. On le répète jamais assez, en France, chaque année, plus de 500 salariés meurent au travail. Combien de mutilés, combien d'handicapés on va encore devoir supporter pour engraisser toujours plus ceux qui ont du fric à plus savoir qu'en faire. Vous savez, à Valenciennes, on y fabrique les boîtes de vitesse. C'est comme les moteurs, on nous en a fait des promesses. Comme ici, l'usine était immense. Comme ici, ils ont vendu les terrains. Alors, le tour de passe-passe de la vente des terrains. Les terrains qui sont donnés par le comité d'agglo, qui prennent de la valeur immobilière sur 20 ou 40 ans, et que le patron revend avec la plus-value, et bien sûr, cet argent, vous croyez qu'il la redonne aux collectivités? Certainement pas, certainement pas. Il y a des camarades de Rennes, peut-être, qui pourront en parler. Sur leur site, c'est pire. Si les terrains ne trouvent pas preneur, on oblige la CAPH de racheter leur propre terrain et avec la plus-value. Mais quand est-ce que ça va continuer, ce carnage financier sur nos impôts? On ne peut pas accepter ça. Évidemment, on se le dit tous dans un coin de tête. Il faut se l'avouer, la mobilisation aujourd'hui n'est pas à l'ampleur des enjeux. Et il faut se faire une promesse. Chaque salarié, chaque militant devra lundi repartir à l'entreprise et devenir un militant de la grève. Une grève dure qui devra se faire entendre jusqu'au gouvernement. Parce que sans ces conditions de rapport de force, jamais nous n'obtiendrons satisfaction. Nous disons, nous aussi, travailleurs de Valenciennes, Tavares, regarde-nous, monsieur 20 000 euros par jour. Si tu touches à nos boîtes, on se battra, et jusqu'à la fin, quoi qu'il en coûte.
Mécanicien, tourneur de vieilles manufactures ou d'usines de chaussures, de crise économique en restructuration, de fermeture d'usines et de chantiers en perdition. Salut, c'est nous, nous sommes les ouvriers. Manufacture de coton, de laine et de soie, les forges de chez Renault, chantier de la Ciotat, d'où sortaient des bagnoles, des paquebots et du tissu. Il y en avait du boulot, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Cadence, précarité, nous sommes les ouvriers. Le front pop de 36, c'était il y a bien longtemps. 40 heures à la semaine, de l'espoir pour 20 ans. Les congés sont payés, on n'osait même plus en rêver. Ça durera pas longtemps, le chômage viendra tout doucement. On va morfler. C'est nous les ouvriers. Tabasser les canuts, 1881, 1848, les ouvriers parisiens. Le train et à la chaîne, des OS de chez Citroën. Métro, des primes, dodo, des licenciés de chez Renault. C'est notre histoire à nous les ouvriers. Prends les terres, patron milliardaire, sont faits pour se plaire. Aménager, modifier les horaires et changer aussi les salaires. Ceux pour qui on bosse. procès nous ont bien baisés. C'est compris, merci, c'est pas compliqué. De moins en moins payés, nous sommes les ouvriers. Et le pouvoir vacille. Sacrifier son salaire n'est pas aussi facile. Pour le pouvoir d'achat, y'a que le combat collectif. L'augmentation du niveau de vie sera notre objectif. Tout va changer, c'est nous les ouvriers. Rentrée de manif, les deux arcades ouvertes. Retour au quotidien, omelette et salade verte. Avoir quelques copains, discuter politique. Le partage du temps de travail, ce n'est pas utopique. C'est nos idées à nous les ouvriers. Prolétaires, patrons milliardaires, sont faits pour se plaire. Pourquoi pas aménager, modifier les horaires et changer aussi les salaires. Ceux pour qui on bossait nous ont bien baisés. C'est compris, merci, c'est pas compliqué. De moins en moins nombreux, nous sommes les ouvriers. Le prolo qui va au charbon a toujours raison. L'ouvrier parisien est teigneux comme un chien. Dans la sidérurgie, on passera par notre vie.
Bien, bonjour à tous. Alors, je vais prendre la parole aujourd'hui pour représenter les centres d'ingénierie, de recherche et développement et le tertiaire donc de PSA. Ma présence aujourd'hui est un peu particulière parce qu'en 1999, c'est la première fois que je venais sur FM. J'ai passé pas mal de temps pour lancer des projets ici. J'y suis resté des mois, voire même un moment une année complète. Donc je voudrais déjà apporter tout mon soutien à mes collègues, à mes camarades de la CGT de FM, aujourd'hui, dans leur combat contre cette fermeture. Alors on en a parlé juste avant, ça a été évoqué, il n'y a pas qu'à FM, effectivement, chez PSA, qui a des problèmes de suppression d'emplois, de fermeture, etc. Ça a été évoqué tout à l'heure, je crois, il y a un rassemblement des Renault au Mans aujourd'hui, un peu pour les mêmes raisons, parce que vous n'êtes pas sans savoir que chez Renault, effectivement, il y a un plan de suppression d'emplois en ce moment. Je crois que c'est 4500 suppressions d'emplois qui sont prévues sur une année, qui a démarré l'année dernière. Il y a aussi les fonderies, vous en avez sûrement parlé, les fonderies de Bretagne, les fonderies du Poitou, les fonderies du Jura, aussi, qui sont menacées par un plan de fermeture, parce qu'ils ont décidé, effectivement, de restructurer les fonderies. Voilà, et je sais qu'aujourd'hui, voilà, il y a d'autres boîtes qui sont représentées ici. Et effectivement, on voit qu'on a un peu tous les mêmes problèmes. Alors la question aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas lutter tout seul dans son coin. Il faudra un moment coordonner nos luttes pour pouvoir effectivement tous lutter ensemble pour faire reculer le patronat. Voilà, je vous remercie.
La parole à... Bonjour à toutes et à tous. Bon, on est venu une délégation de l'usine Toyota à Ona, près de Valenciennes. Alors Toyota, c'est 200 milliards de bénéfices ces 10 dernières années. Ça va être bientôt publié. Près de 15 milliards d'euros de bénéfices malgré la crise sanitaire. À Toyota Ona, la direction... Le groupe Toyota trouve encore les moyens de ne pas payer d'impôts sur les bénéfices. Alors que le boulanger d'Onin paye des impôts sur ses bénéfices, Toyota trouve les moyens de mettre les comptes dans le rouge. Et de l'autre côté, d'encaisser tout ce qu'il peut d'argent public. Alors à l'usine, on est 5000, 3200 CDI. 600 CDD, 500 intérimaires, 400 contrats pro et des apprentis. Pour arriver à ce niveau de bénéfice, Toyota nous met en concurrence les uns avec les autres. Et finalement,
Ce qui arrive aux travailleurs de la française de mécanique, c'est le résultat de la concurrence entre ces groupes capitalistes, entre Toyota, entre PSA, Renault, Fiat. Oui, ils sont en concurrence pour les profits. Et au bout du bout, bah, c'est les projets de fermeture d'une usine. Et pour nous, à l'usine de Nain, c'est des cadences de dingue, avec des salaires qui sont tirés à la baisse. C'est des contrats intérim, qu'on prend, qu'on jette. Alors, je vais pas être long, mais justement, contre cette loi du profit, contre cette mise en concurrence des travailleurs, eh bien, on n'a qu'une solution, nous, les ouvriers, pour défendre notre emploi, pour défendre nos conditions de travail, pour défendre nos salaires, c'est s'unir, c'est se mobiliser, c'est se défendre tous ensemble.
Camarade de Renault.
Il n'y a personne qui parle des sous-traitants de ces boîtes-là.
Oui, ouais. Bonjour, Jean-François Piboulot, je suis DSC chez Renault. Donc, bien sûr, nous avions une partie de nos camarades qui étaient au Mans. Ça s'est bien passé, ils sont en train de défiler dans la ville du Mans. Et autrement, ici sur le site, nous avions les camarades de Douai, les camarades de Maubeuge, les camarades de Ruiz, LASTA. Voilà. Donc, moi, nos affaires, il faut véritablement voir et comprendre tout ce qui se passe. Déjà, tout ce qu'ils nous disent sur le moteur électrique, c'est que de l'enfumage. C'est l'enfumage. On ne sera jamais tous motorisés en électrique. C'est faux. Et de plus, ça coûtera tellement cher que ça ne laissera que des voitures à une toute petite partie de la population qui pourront se les payer. Ce sera des populations citadines. C'est bien souvent des gens qui ont le plus fort pouvoir d'achat. Voyez, les véhicules électriques que l'on va fabriquer à Douai, les premiers véhicules seront vendus à 40 000 euros. Mais qui pourra se payer des véhicules à 40 000 euros? Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas possible. Le parc automobile français n'arrête pas de vieillir. On nous dit on va vous mettre de l'électrique pour l'environnement. Mais c'est faux. C'est faux. D'une part, ils font pas tous les calculs sur l'électrique, de tout ce qui se produit et comment on fabrique l'électrique. Les batteries électriques sont fabriquées plutôt dans les pays d'Asie, même si on nous parle de fabriquer bientôt des batteries sur le site ici. Il y a des minerais très rares qui sont pris sur les batteries et qui coûtent extrêmement cher à extraire et qui ne sont pas faits et qui ne sont pas sur le territoire national. Donc là-dessus, sur la cause environnementale, c'est complètement faux. Le vrai problème, c'est la même logique, c'est toujours la logique que l'on a subie depuis de très très nombreuses années, c'est la stratégie financière de nos patrons. Schweitzer, qui a été PDG de Renault pendant de très très nombreuses années, l'a écrit dans ses mémoires, dans ses années Renault, comme il a appelé le bouquin. Il a écrit « Les actionnaires n'ont que des droits et aucun devoir. Nous n'avons pas d'autre choix que de satisfaire leur bonheur. » Et voilà, c'est ça que... Et on subit continuellement ce fait-là. Donc aujourd'hui, il faut bien sûr se battre pour améliorer et développer l'ingénierie en France. Regardez, en France, Renault a délocalisé plus de 40% de son ingénierie et bientôt va passer à 60% de son ingénierie délocalisée dans des pays à bas coût, en Inde, en Corée, au Brésil, voilà, et en Roumanie, bien sûr, parce qu'on a un grand centre en Roumanie. On va également délocaliser, c'est ce qu'on est en train d'organiser, que la direction générale de Renault est en train d'organiser, c'est la délocalisation des essais en Roumanie. Tous les essais sur les motorisations, on a des sites qui vont fermer en région parisienne, ou qui sont menacés. Aujourd'hui, c'est l'ancien directeur de l'ingénierie de PSA que l'on a chez Renault. Gilles Le Bon, il pratique ce qu'il a pratiqué quand il était chez vous, c'est-à-dire qu'il applique l'article L1224 du Code du Travail, c'est-à-dire on délocalise l'activité chez des sous-traitants ou à l'étranger avec les contrats de travail. Les gars, ils n'ont pas le choix, et s'ils ne suivent pas, ils sont licenciés pour faute.
Et ça, c'est ça qu'il faut qu'on bataille, qu'on lutte contre ces choses-là. Et là-dessus, il faut qu'on soit des forces aussi, nous, une force de proposition. On a su faire des choses à l'époque avec... on a fait la française de mécanique avec Peugeot. On a développé les emplois ici avec Peugeot. Et pourquoi on ne garderait pas une vraie filière industrielle automobile en France en coopération avec les grands donneurs d'ordre, dont Renault et Peugeot, plutôt que faire ce que... Et là, il faut véritablement un véritable ministère de l'industrie en France qui prenne des décisions, qui impose. On a réussi à le faire dans un pays qui était assoiffé, qui n'avait plus rien. En 1945, vous avez Marcel Paul qui a imposé des choses, qui a dit qu'il faut reconstruire de l'industrie en France, il faut faire des choses. Eh bien, continuons ce type de travail et imposons ce type de choses que tout le monde donne, effectivement, pour reconstruire une vraie filière industrielle française, une vraie filière de l'automobile novatrice, avec de la recherche sur l'ensemble des choses et pas uniquement sur les moteurs électriques, qui est une vaste vive fumisterie. Là-dessus aussi, sur ce qu'on pourrait également construire, c'est construire d'autres véhicules. Aujourd'hui, ce qui est lamentable, c'est que le parc automobile français vieillit. Les salariés, nous sommes obligés d'acheter des véhicules d'occasion qui polluent énormément, qui utilisent des anciens moteurs. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui en France. Donc on peut toujours nous dire qu'on va développer la filière électrique pour ne pas polluer, mais comme on ne pourra pas se payer les bagnoles, on achètera de plus en plus d'anciens véhicules. Quelques nouvelles des fonderies Bretagne, j'y étais tout la semaine dernière, j'y étais encore ce week-end. Aujourd'hui, ils étaient reçus en préfecture avec un médiateur pour qu'ils puissent enfin avoir un dialogue avec Renault. Renault nous refuse complètement le dialogue. C'est inadmissible, alors que la fonderie Bretagne ne fait aucune pièce pour les moteurs. Toutes les pièces qu'elles font, c'est pour la liaison seule, des pièces de sécurité, et qui se feront, pour le moment, toujours en fonte. Et donc, on est en train de nous dire qu'on va supprimer la fonte en France, mais cela est faux. C'est faux, il n'y a que du mensonge, et on ne peut pas accepter ça. Il y a aussi les aides du pouvoir public. C'est inadmissible que les politiques donnent des aides aux industriels en France pour qu'ils licencient en France, ils délocalisent la production et l'ingénierie dans des pays à bas coût et ils les investissent également dans ces pays-là pour l'avenir. C'est inadmissible. Les politiques devraient demander des comptes à tous les industriels et que toutes les aides soient soumises à des obligations d'investir en France, obligations de créer des emplois en France et obligations d'améliorer les conditions de travail également en France. Et c'est pour ça que nous revendiquons également la localisation de véhicules qu'on produit à l'étranger sur le territoire français. Nous, on a nos camarades en Turquie qui travaillent 7 jours sur 7, 12 heures par jour. L'usine tourne à 150%, la Roumanie à 150% également, dans les mêmes conditions, alors qu'en France, alors qu'en Espagne, alors que, je pourrais dire, en Slovénie également, les usines sont sous-utilisées et on pourrait mieux répartir les productions, améliorer les conditions de travail pour tous, et comme cela, on pourrait tous travailler et tous, effectivement, avoir son salaire pour faire vivre l'ensemble de sa famille et profiter un tout petit peu de la vie.
Voilà, il reste deux intervenants, juste un petit peu de patience encore. Il y a le camarade de l'UL CGT de Béthune qui nous dit quelques mots sur la situation du Béthinois, y compris après la fermeture de Bridgestone.
Chers amis, chers camarades, c'est quand même un printemps bizarre. C'est un printemps bizarre avec ce temps, mais c'est un printemps aussi qui peut fleurir beaucoup. On a aujourd'hui sur le Béthunois, effectivement, un certain nombre de choses qui se passent pas bien, mais on a aussi des fleurs qui poussent. Béthunois,
Bruesy, le secteur ici, sur le secteur d'Auchy, Billy Berclos, Douvrin, c'est effectivement des fermetures qu'on annonce, ou des fermetures qu'on n'annonce pas, qui se font en catimini. Aujourd'hui, ici, à Douvrin, c'est 1500 emplois dans l'industrie automobile. Mais à quelques centaines de mètres d'ici, à Aquarez, qui travaillait pour l'industrie aéronautique, ça a été une trentaine d'emplois qui ont été supprimés, une douzaine d'abord, puis une trentaine après. Un PSE, mais pendant ce temps-là, l'industriel, qui est un investisseur américain, se récupère les brevets, les machines, les marchés. Toujours pour faire, comme ici, plus de profit. Sur le centre commercial d'Auchy-les-Mines, qui est pas loin d'ici, c'est une franchise, District Center, qui ferme son magasin. Ils n'ont jamais fait autant de profit que pendant le Covid. Parce que même s'ils ferment les magasins, si les magasins sont restés fermés, ils ont continué à vendre par correspondance. Et comme c'est l'État qui paye les salaires, eh bien les profits, ils augmentent. À Béthune, on a parlé de Bridgestone, et les camarades, effectivement, sur Bridgestone, ont eu beaucoup de difficultés pour essayer de mener une lutte. C'était très compliqué de faire comprendre aux salariés, comme vous l'avez dit, vous, tout à l'heure, dans vos différentes interventions, qu'il vaut mieux un emploi qui dure qu'une prime, quelle qu'elle soit, qui va s'évaporer très vite. Sans oublier que cette prime, on va récupérer dessus des impôts, des cotisations sociales, que les gens qui ont bénéficié de cette prime n'auront plus droit aux APL ou aux aides sociales qu'ils avaient avant. Il faut se battre pour l'emploi. Il faut se battre. Il faut se battre aussi pour les conditions de travail et pour le profit, contre le profit qui augmente partout. Il y a 15 jours, les jeunes salariés du McDo de Béthune, jeunes équipiers, 21 en grève sur 21. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que pour préparer un sandwich, on leur donne moins de 30 secondes. Alors qu'il y a encore quelques temps, ils avaient moins de 50 secondes. Les cadences, comme en usine, dans les McDo. Mais pendant ce temps-là, le patron, c'est un franchisé, il a plus de 10 McDo, et sur chaque McDo, il se met 5 000 euros de profit par an dans les poches. 500 000 euros de profit. Et pendant ce temps-là, on mégote la négociation annuelle des salaires. À côté de chez nous, il y a tous les théâtres qui sont occupés, le Sébastopol à Lille, la Comédie de Béthune, les intermittents qui sont en lutte, parce que si effectivement, aujourd'hui, le projet du gouvernement sur la réforme de l'assurance chômage passe, eh bien il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui sont sans emploi, qui vont perdre jusqu'à 300 ou 400 euros par mois d'indemnisation de Pôle emploi. En tant que retraité, on continue à se battre aussi pour empêcher la réforme des retraites, parce qu'elle est toujours sous le coude, même si avec le Covid on n'en parle pas pour l'instant. Alors mes camarades, on est dans un printemps, il faut que ce printemps il éclate, il faut que ces luttes elles continuent, parce que sinon c'est la mort, comme le disait tout à l'heure, de nos familles. On sait ce que c'est des licenciements. On les a vus, les conséquences, à Goodyear, à Continental, des suicides, des divorces, des gens qui n'en peuvent plus, qui sont dans la misère, qui ne retrouvent pas d'emploi. Alors mes amis, mes camarades, là où vous êtes, partout, dans les grosses boîtes, comme dans les petites entreprises, comme dans les commerces, il va falloir qu'on monte la pression pour qu'on se batte, pour que ce soit un printemps vraiment superbe. Merci à vous mes camarades.
Bravo. La parole au dernier camarade de PSA.
Bonjour, Franck Théry de PSA Ordin, ex-Cévennes Nord. Donc je dis ex-Cévennes Nord parce que à Cévennes Nord on fabrique l'utilitaire. En 2016, on était les seuls à fabriquer de l'utilitaire. Quand on est passé sur le giron de PSA, on s'est retrouvé à deux, avec Cévennes Nord et Luton en Angleterre. Aujourd'hui, avec Stellantis, il y a 8 plateformes qui peuvent passer de l'utilitaire. Donc aujourd'hui, on voit bien Tavares placer ses pions dans les sites pour détruire l'emploi, parce qu'il va s'occuper de supprimer les doublons, alors qu'aujourd'hui, il est nécessaire de répartir les productions sur tous les sites, de baisser les charges de travail, de baisser le temps de travail pour donner du boulot à tout le monde. Aujourd'hui, c'est PSA Douvrin qui est touché par une menace de fermeture. Demain, ça sera un autre site. Ça peut être Valenciennes, un site en France, un site à l'étranger ou partout. Donc, il faut qu'on puisse faire converger toutes les luttes. Parce que dans tous les discours que j'entends sur les bagarres, je pense qu'on se bat chacun dans notre côté. Il y a Renault, il y a Peugeot, il y a dans le ferroviaire aussi, dans l'aéronautique, tout ça. Partout en France, dans toutes les entreprises, il y a de la classe de l'emploi. Le patronat, ce qu'il veut, c'est du fric. Tavares, lui, il s'en fout. S'il ne vend pas de bagnole, il s'en fout pas mal, c'est du fric. L'année dernière, il a dit, j'ai vendu moins de bagnole, mais j'ai fait plus de fric. Les 1 milliard d'euros qui se sont partagés le 8 mars, comme Jean-Pierre le disait tout à l'heure, représentent 1000 emplois en CDI pendant 40 ans. Donc aujourd'hui, PSA pesait 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Avec Stellantis, c'est 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc cette répartition des richesses, ces bénéfices, c'est le travail de tout le monde. Donc il faut absolument une convergence de toutes les luttes et un blocage de l'économie en France pour justement faire reculer le patronat et faire en sorte que tout le monde travaille aujourd'hui, nos enfants travaillent aujourd'hui. S'ils ferment PSA Douvrin, c'est nos enfants qui pourront plus travailler dans la région, c'est des commerces et tout. Donc à aujourd'hui, il y a une vraie convergence des luttes et faire plier le patronat, c'est l'arrêt de l'économie en France.
Bienvenue à tous. La nouvelle était dans l'air, on l'évoquait depuis plusieurs mois, mais son annonce officielle a brusquement modifié le climat social et politique en France. PSA, premier constructeur automobile du pays, annonce donc 8000 suppressions d'emplois.
Il n'y a aucune justification à la fermeture de l'usine d'Aulnay.
Les actionnaires, c'est eux qui nous coûtent cher. C'est eux qui licencient et qui ferment les usines et c'est eux qui ramassent le profit et les bénéfices.
C'est la première fois qu'une usine automobile ferme en France. En 20 ans.
J'ai quand même ma famille, j'ai la maison à payer.
Vous comprenez cette décision de PSA ou elle vous choque?
Tout est parti d'un document trouvé je ne sais où, parlant d'une usine et d'un avenir sous verrou. Bien sûr qu'il y a malaise quand il parle de reclassement. Écran de fumée aussi dangereux qu'un gaz d'échappement. Fond d'espoir réduit à néant, au rythme de leurs discours bien ficelés culpabilisants. Pendant que le monde tourne comme leur moteur, le nôtre s'effondre au profit de certains saboteurs. Braquage verbal, menteur depuis le début. Notre patron a plus de vis que les dealers de nos rues. La colère monte, y'a trop de mépris et d'arrogance. Nos jobs ont le même horizon qu'un condamné sur la potence. Quand on se tue à la tâche, la fermeture est indélébile. Une cicatrice qui saigne sur de nouveaux bidonvilles. Dans leur annonce, ils parlent du sacrifice. Nous c'est pas de la peau du lion qu'on se souvient mais de ses griffes. Tristesse, colère, inquiétude, sacrifice. Déprime, malaise.
Ça peut plus durer.
Mépris, mensonge, arrogance, actionnaire, escroc, relâchement.
Ça peut plus durer.
Profit, esclave, stress, chômage, pression, flottement.
Ça peut plus durer.
Vous êtes prêts à aller jusqu'où?
On lâche rien.
Jusqu'au bout.
Quand il s'agit d'indemniser, le lion est un rapace. Les émotions s'entrechoquent, on se doit limiter la casse. On mène plus à la baguette ceux à qui on promet des miettes. Y'a trop de contre-jours sur nos enfants qui déforment leur silhouette. Avare, varin, responsable, véreux. Il quadruple son salaire et dit que le coût du taf est fiévreux. Aucune usine devrait fermer grâce à l'argent public. L'État ose dire qu'il n'y a pas de secteur privé dans ses rubriques. Y'a de l'inquiétude, menteur d'un jour, menteur toujours. Y'a des larmes et y'a des malaises que n'arrange pas le compte à rebours. On le savait tous, mais c'était pas d'actualité. Et y'a pas plus dangereux qu'un animal qu'on vient de blesser.
PSA a distribué 200 millions de dividendes à ses actionnaires.
Ceux qui fabriquent les richesses, ceux qui fabriquent les produits, c'est pas les actionnaires, c'est nous.
Tristesse, colère, inquiétude, sacrifice, déprime, malaise.
Ça peut plus durer.
Mépris, mensonge, arrogance, actionnaire, escroc, relâchement.
Ça peut plus durer.
Profit, esclave, stress, chômage, pression, flottement.
Ça peut plus durer.
Vous êtes prêts à aller jusqu'où?
On lâche rien.
Jusqu'au bout.
PSA, politique au service d'actionnaire. PSA, patron saboteur d'avenir. PSA, politique au service d'actionnaire. PSA, patron saboteur d'avenir. Tristesse, colère, inquiétude, sacrifice, déprime, malaise.
Ça peut plus durer.
Mépris, dit mensonge, arrogance, actionnaire, escroc, relâchement.
Ça peut plus durer.
Profit, esclave, stress, chômage, pression, lancement.
Ça peut plus durer.